Le MAG vous emmène au musée Henri Martin qui va ouvrir dans quelques jours, c'est-à-dire à partir du 6 mai. Et on a attendu ça pendant un petit moment d'ailleurs, entre parenthèses. Alors les invités avec moi pour en parler, c'est Sylvie Caroff qui est avec nous et qui est donc la conseillère municipale déléguée au musée, au théâtre, à la médiation culturelle et aux espaces sociaux et citoyens. Mais là c'est effectivement au point de vue du musée que nous allons parler. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Et puis on va dire bonjour quand même à Rachel Amalric, qui est donc la directrice du musée Henri Martin et des arts visuels. Vous allez nous expliquer pourquoi et des arts visuels. Bonjour Rachel.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Alors merci de m'accueillir ici, dans ce musée. Sylvie, je disais au tout début, ça fait longtemps qu'on attendait. Ça y est, c'est enfin le grand moment. J'imagine que là, vous trépignez d'impatience. Vous savez que tout est prêt, les œuvres sont installées.
Oui, tout à fait. Ça va être vraiment un grand événement. Et entre autres parce que, comme vous dites, on l'a attendu et tout le monde l'a attendu. Il y a eu des bonnes raisons à tout ça. En fait, ça fait 4 ans donc que les travaux ont commencé. Il y a eu bien sûr l'épisode du Covid qui a empêché toutes les entreprises d'être en même temps sur le chantier. Voilà, il y a eu les retards qu'il y a toujours sur les chantiers et ça y est, maintenant, enfin, on va ouvrir.
Et ce qui est génial, ce que les auditeurs ne savent pas spécialement, c'est qu'en même temps, le parc Tassard à côté, en plus, va ouvrir en même temps. C'est ça qui est génial. Et tout refait.
Mais oui, et ça, c'est prévu. Voilà. C'est prévu comme ça pour que ce soit vraiment encore plus la fête. C'est-à-dire que le bâtiment en fait, du musée a vraiment ce rôle de trait d'union entre le cœur de la ville et le parc Tassard. Et vous verrez, quand vous déambulerez dans le musée, il y a des grandes baies vitrées qui donnent sur le parc et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre.
Est-ce qu'on peut dire que le musée a été complètement rebâti presque? Vous avez gardé les murs, mais vous avez vraiment tout refait de A à Z?
Oui, on a quand même gardé le palais épiscopal. Il a fallu, justement, c'était un défi, il a fallu garder l'âme de ce lieu et puis en ajouter une aile importante, moderne, mais qui reste discrète, qui a permis d'exposer les deux grands formats d'Henri Martin.
Ce musée Henri Martin, Sylvie Caroff, là, si on dit que c'est un musée qui est seulement consacré à Henri Martin, c'est juste un petit musée de ville, j'imagine que c'est pas du tout l'ambition que vous lui donnez.
Pas du tout, et je crois que voilà, c'est vraiment ça une notion qu'on peut donner et qu'on peut ressentir à tous les Cadurciens, tous les Lotois et même au-delà. C'est un musée qui va exposer de l'histoire, du patrimoine, Henri Martin, mais évidemment d'autres peintres. Donc son rayonnement, il est Cadurcien, il est Lotois, mais il est aussi de la région et aussi national avec la salle Gambetta et la Troisième République. Et puis bien au-delà, puisque nous avons aussi des objets et le fameux Durongo qui nous vient de Polynésie.
Quel est cet objet? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ou on demande à... Je reviens vers vous, Rachel, parce que là, elle a éveillé mon intérêt. L'objet, comment il s'appelle?
Il s'agit du dieu Rongo. C'est une statuette en bois qui représente ce fameux dieu qui peut prendre la forme d'une brume ou d'un arc-en-ciel. C'est le dieu de la fertilité, de l'agriculture, du curcuma. Et nous avons la chance d'avoir une petite collection océanienne qui a été rapportée par Bonafus Mura. Et qui constitue un véritable trésor, aussi bien au cœur de nos collections qu'au niveau des collections publiques françaises, puisque Rongo est classé trésor national. Autrement dit, il est d'une rareté exceptionnelle.
Alors j'imagine qu'ici, les œuvres, on ne peut pas les toucher à main nue, on n'a pas de risque de s'asseoir dessus, quoi.
Non, c'est tout l'intérêt d'un musée, c'est de conserver ces objets pour les générations futures aussi. En revanche, on peut les regarder et nous espérons que très bientôt, les personnes qui sont en déficience visuelle, et nous avons déjà un projet à travers la résidence d'artistes qui a eu lieu ces derniers mois pour préparer l'ouverture du musée, eh bien nous espérons que très prochainement, toute personne en situation de déficience visuelle ou les personnes aveugles puissent venir dans un cadre très particulier pour découvrir les œuvres. Et dans ces cas-là, de manière très très exceptionnelle, ils vont pouvoir les toucher avec des gants, bien sûr, mais découvrir autrement pour ceux qui ne peuvent pas voir.
Alors je reviens vers vous, Sylvie Caroff. Comment on fait justement pour que ce musée soit un lien entre tous les habitants? Parce que je sais qu'il y a eu depuis quelques semaines déjà des artistes qui préparent l'ouverture pour que les Cadurciens s'approprient ce musée, mais après?
Alors oui, c'est un vraiment on a mis un point d'honneur à ce que ce musée ne soit pas, ou le moins possible en tout cas, élitiste comme beaucoup de musées, et qui doit qui donc soit ouvert à tous, que chaque personne se sente légitime de venir le visiter, déambuler dedans. Et pour ça, effectivement, ça a commencé par cette résidence d'artistes qui a ouvert en fin novembre et qui a permis à des personnes d'approcher le musée, peut-être des gens qui ne seraient jamais venus ou qui n'ont jamais été dans un musée, et qui ont fabriqué des petites figurines, qui ont fabriqué des fleurs en papier. Donc non seulement ils vont pouvoir rentrer dans le musée, mais en plus ils vont y voir des objets, des objets d'art qu'ils ont fabriqués.
Et alors pour avoir été faire un reportage là-bas dans cette résidence, ce qui m'a surpris, c'était l'âge, tout le monde quoi, des petits aux plus vieux.
Absolument, tous les âges, des personnes, encore une fois, qui jamais seraient venues et qui ont pris beaucoup de plaisir à venir, qui ont été même assez fidèles, qui sont venus plusieurs fois. Voilà, donc ça, c'est une grande richesse et une réussite de ce projet, puisque ça nous tenait à cœur.
Et le musée et l'école, et les écoles plus précisément, quel est le lien que vous allez faire ?
Alors ça, il y a une médiatrice donc qui va s'occuper effectivement de ça, qui travaille déjà sur ces projets. Il y aura un lien étroit entre les étudiants, les scolaires de tous les âges aussi, le programme, etc. Ça, c'est aussi quelque chose qui va avoir beaucoup d'importance dans le musée.
Bon, bah très bien, parce qu'effectivement, ce musée, il faut le faire vivre, hein, Rachel Amalric. C'est-à-dire qu'à un moment, là, l'ouverture, il va y avoir l'effet de curiosité, etc. Mais après, il faut que les gens viennent régulièrement, tous les touristes, mais pas que.
Évidemment, pas que. Parce que, en réalité, ce qui est intéressant dans un musée, c'est que c'est quelque chose d'indélocalisable. Ce qui est super pour nous, c'est qu'on a justement un public naturel, le public local. Donc c'est avant tout et surtout pour eux. Je dirais que c'est plutôt l'inverse de ce qu'on imagine. Ce sont des propositions et des projets que nous faisons pour les locaux et, par chance, les touristes peuvent en bénéficier. Donc c'est ça qui est important. De fait, nous avons pensé ce projet comme un projet qui doit se renouveler, qui doit évidemment susciter l'intérêt, mais aussi le maintenir. Et donc nous aurons des propositions de type exposition temporaire, en moyenne 2 fois par an, mais nous avons aussi l'intention de faire vivre et vibrer les collections, puisque tout n'est pas présenté, nous avons des réserves, et nous allons créer une rotation. Par exemple, tous les Henri Martin ne seront pas présentés à l'ouverture. Donc de temps en temps, nous allons modifier une sous-thématique ou une partie ou quelques-uns des tableaux pour pouvoir en présenter d'autres. Ce qui permettra à ceux qui veulent venir plusieurs fois dans l'année de découvrir de nouvelles choses. Nous allons aussi avoir une salle qu'on appelle la salle suspendue. Cette salle suspendue, elle est suspendue aussi au-dessus de la grande salle des grands décors, mais elle est aussi suspendue au-dessus de nos collections. Cette salle, elle va nous permettre de présenter justement des thématiques qu'on ne peut pas présenter dans le parcours de référence, mais qui font quand même partie de nos collections et de nos ambitions en tant que musée territorial notamment. Il y a aussi un petit espace qui est réservé dans les salles d'archéologie à l'actualité de l'archéologie. Rappelez que c'est une discipline vivante, que tous les jours sur notre territoire nous avons de nouvelles découvertes et ça c'est important, ça va permettre justement de maintenir l'intérêt du public, de lui donner envie de venir et de revenir. Ça, c'est sur l'aspect du parcours. Au-delà du parcours, il y a évidemment des animations. On ne va pas tout vous dévoiler tout de suite, mais évidemment, il va y avoir des rendez-vous tous les mois, toutes les semaines, entre midi et 2 pour ceux qui travaillent, parfois le soir. Le principe étant de choisir différents points de vue pour regarder nos collections, d'avoir une rencontre qui peut être renouvelée avec les collections, avec les œuvres d'art, avec les biens culturels.
Alors, question toute bête comme ça, quand on a un musée comme ça, donc j'ai compris que le musée Henri Martin avait ses œuvres en fonds propres, si on peut dire. Mais le reste, comment ça se passe? Comment on les trouve? D'où elles viennent? Qui vous donne l'autorisation de les mettre?
Alors nous avons effectivement essentiellement, hein, pour la grande majorité des œuvres présentées, des œuvres qui sont propriétés de la ville de Cahors. Mais au-delà de ça, tout simplement parce que parfois il nous manque un petit élément pour expliquer une chaîne particulière en termes historiques, ou tout simplement parce que nous aimerions avoir telle ou telle œuvre extrêmement importante, eh bien nous allons demander la mise en dépôt, que ce soit nous tourner vers d'autres professionnels, notamment le musée d'Orsay, comme on l'a fait pour le portrait à la palette devant la fenêtre d'Henri Martin, que ce soit vers le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye qui nous prête l'Allée cadurcienne, qui est vraiment une victoire pour nous en termes de présentation pour l'ouverture, ou que ce soit envers des particuliers. C'est-à-dire que nous entretenons aussi des relations avec les collectionneurs ou avec la famille des différents artistes qui nous permettent d'obtenir de leur part une mise en dépôt ou un prêt temporaire pour une exposition. Et c'est essentiellement entre les professionnels, c'est-à-dire musées, et les privés qui ont un intérêt dans le milieu de l'art, que nous puisons finalement nos autres ressources.
Alors, il me semble qu'au mois de juillet, vous avez une exposition, mais pas n'importe laquelle aussi. Vous pouvez nous en parler ?
Ah, effectivement, on a la chance de recevoir les œuvres de Sa Majesté Margrethe II de Danemark. Quand je dis ses œuvres, ce ne sont pas les œuvres qu'elle collectionne en tant que reine. Non, ce sont les œuvres qu'elle crée en tant qu'artiste. Cette femme a une capacité extraordinaire à toucher à toutes les techniques artistiques qui s'offrent à elle. Et évidemment, nous avons un lien avec la reine, puisque elle a des terres lotoises. Autrement dit, le château de Kais lui appartient. Et au-delà de profiter du vignoble, elle profite des paysages pour s'inspirer et créer des peintures, des découpages, tout un tas de propositions artistiques. Je dis bien tout un tas parce que vraiment, la multiplicité des techniques dont elle s'empare, la multiplicité des manières de faire est absolument incroyable chez Sa Majesté.
Et vous allez voir, comme j'ai poussé l'enquête un peu loin, j'ai su qu'elle est passée au musée pendant les travaux, d'ailleurs, pour voir où allait être exposée ses œuvres.
En effet, elle nous a fait l'honneur de venir nous rendre visite en plein chantier l'été dernier. Et nous avons eu effectivement la chance de pouvoir lui exposer quelles propositions nous souhaitions faire autour de ses œuvres. Donc, nous avons fait le tour du musée et elle nous a dit qu'elle avait trouvé que c'était un lieu qui était très intéressant et très prometteur. Évidemment, nous en étions encore aux travaux et loin des finitions. Et nous sommes ravis de pouvoir proposer cette exposition dans nos nouvelles salles. Je pense qu'il va y avoir là un temps d'échange entre le public et les œuvres de Sa Majesté absolument intense.
Alors, on imagine quand même que quand on veut créer des expositions, là on rentre vraiment dans le côté technique. Hein. Je reviendrai vers vous, hein, si vous inquiétez pas, hein, j'ai encore des questions. Mais elle dit non, vous prenez votre temps, mais non, vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que par exemple, on a bien compris que des expositions, des œuvres qui passaient de musée en musée, il fallait les réserver longtemps à l'avance. Donc j'imagine, sur combien d'années, j'ai envie de dire, parce qu'à mon avis, ça doit, et vous allez me dire si je me trompe, ça doit se raisonner comme ça, sur combien d'années vous avez fait votre programmation ?
Alors, nous, on a déjà réfléchi à plusieurs années de programmation. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous ne voulons pas tout de suite tout dévoiler. Effectivement, en fonction du sujet, en fonction du type de thématique, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une monographie, est-ce qu'on est sur quelque chose de diachronique, est-ce qu'on est sur une thématique très, très recherchée ou avec un rayonnement plus local, eh bien, les demandes de prêts peuvent se faire jusqu'à 3 ans à l'avance, ou en tout cas la programmation et l'idée de choisir telle ou telle œuvre, puisque au départ on a une liste idéale qui n'est jamais celle qui est présentée au final, puisque évidemment on part toujours de très très loin et très très large, eh bien l'idée peut partir jusqu'à 4 ans à l'avance. C'est une bonne moyenne pour avoir une exposition dont le rayonnement serait élevé.
Alors les contrats de prêt doivent être quand même drastiques, j'imagine qu'on vous demande des conditions pour les garder, pour de sécurité, de température, j'imagine que le musée a été conçu pour ça aussi, c'est pas comme si on faisait une simple maison.
Non, de fait, nous répondons à un cahier des charges extrêmement strict. Le musée Henri Martin a la chance d'être sous appellation Musée de France, ce qui veut dire que nous répondons aux critères de la loi musée. Autrement dit, nous nous devons de conserver dans des conditions absolument idéales les œuvres et les biens culturels. Nous avons donc des réserves qui sont construites dans cet état d'esprit. Nous avons des espaces qui sont contrôlés climatiquement et une forme d'inertie thermique qui nous permet justement d'assurer cette bonne conservation. Tout ça est réuni dans un autre cahier qui s'appelle le Facility Report et qui est en fait finalement le rapport que l'on fait de la qualité du bâtiment et que l'on remet à nos collègues lorsqu'ils veulent savoir quelles sont les conditions de présentation. Par ailleurs, avant la réouverture, parce qu'il y a eu ces travaux, nous avons reçu la visite de la mission interministérielle de sécurité, de sûreté et d'accessibilité qui est venue valider effectivement effectivement que nous avions respecté toutes les normes, y compris l'accessibilité qui est extrêmement importante.
C'est passionnant en fait de savoir tout ça. Quand on rentre dans un musée, en fait, on ne s'en rend pas compte du travail qu'il peut y avoir derrière. On se doute bien qu'il y a des alarmes, on se doute bien, mais tout ceci, c'est un peu effectivement, comment dirais-je, très, très, très passionnant. Oui, Sylvie Karoff.
Oui, et je pourrais rajouter là-dessus qu'en fait, ça a été un choix politique à la base, puisque fin 2015, le musée a dû être fermé à cause de son aspect vétuste du bâtiment, et puis sa non-conformité, et puis la mauvaise aussi conservation des collections. Donc là, il a fallu faire un choix. Soit on fermait et Cahors n'avait pas de musée, soit on partait sur l'idée d'un musée. Et ben voilà, je crois que là, il est réussi. Un musée ouvert à tous, un musée magnifique, et que, voilà, dont tout le monde va pouvoir profiter.
On parle de ces 3 jours qui vont se dérouler à partir du 6 mai. Qu'est-ce qui va se passer très brièvement, hein, parce que je pense qu'il y aura le programme complet sur le site de Cahors Agglo.
Alors d'abord, il y aura évidemment le programme complet, mais la plupart des gens qui nous écoutent recevront le programme dans leur boîte aux lettres, parce que, évidemment, c'est une invitation à tous. Le 6 mai, grand départ en fanfare quelque part, puisque nous allons faire une déambulation festive dans la ville, avec un temps extrêmement fort proposé par Nora Turpo, une danse rituelle pour l'ouverture du musée. Et on va pouvoir profiter d'autres petites surprises et choses agréables jusqu'à 23h au musée. Le vendredi, le mercredi, je dis ça parce que je pense au fait que c'est samedi et c'est jour de marché. Donc après le marché, le samedi, les gens pourront venir faire la fête dès 11h du matin jusqu'à 23h là aussi. Je ne vous révèle pas tout, mais il y aura de la musique, de la danse, des petits moments sympathiques. Et puis il y aura aussi des temps forts assez émotionnels puisque, par exemple, l'association Amigrants, dans la salle réservée à Cahors Mundi, a fait créer une borne, ils ont peint une borne qui a été créée, elle, par les ateliers municipaux de menuiserie. Et sur cette borne, chacun pourra inscrire son kilométrage à lui, de là où il vient jusqu'à Cahors. Ça peut être 3 km pour ceux qui sont juste à côté, puis ça peut être beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça montre à quel point Cahors Mundi est encore d'actualité. Cahors est une ville monde. Ensuite, dimanche, on va avoir un temps plus contemplatif. De 14h à 18h, nous allons pouvoir recevoir les visiteurs qui ont envie d'être en tête-à-tête quelque part aussi avec les œuvres. Donc un petit peu moins d'animation, au sens où il y aura plutôt de la musique. Et une chose absolument importante, en partenariat avec l'Association des Amis du Musée, et nous les remercions pour leur soutien et le travail qu'ils font à nos côtés pour faire rayonner ce musée. À 14h, je précise bien à 14h parce que vous allez lire à 16h et il y a eu un petit changement de dernière minute. Donc à 14h, Hélène Guyot, qui est une spécialiste de l'Océanie, vient spécialement jusqu'à Cahors pour nous parler de Rongo et des objets océaniens.
Sylvie Karoff, pour terminer, en une phrase, tout simplement, comment vous pouvez donner envie aux gens? Ben, ceux qui ne sont pas passionnés par les musées, qui disent qu'est-ce que je me fais chier moi dans un musée, voilà, c'est triste, c'est bon, c'est pour voir des tableaux, etc. Comment on peut leur donner envie de, ou leur redonner envie peut-être de goûter aux joies d'une visite au musée?
Écoutez, les personnes qui ont vu, alors en une phrase je vais avoir du mal, mais les personnes qui ont déjà vu le musée, de voir leur joie, de voir ce qu'ils ont dans le regard, quand ils pénètrent déjà dans la cour et dans le bâtiment, et quand, voilà, voilà, là, ça veut dire vraiment que les gens auront envie et auront énormément de plaisir à venir dans ce musée, y compris les lycéens qui vont venir déjeuner le midi dans le parc Tassard. Le lien sera fait. L'idée aussi, c'est d'enrichir le centre-ville, le cœur de ville, et je crois que ça va être une grande réussite aussi. Je voulais juste préciser que les 3 jours, donc 6, 7 et 8 mai, les 3 jours de festivité, tout va être entièrement gratuit, y compris l'accès au musée. Venez nombreux.
Donc c'est le moment, effectivement. Eh bien, merci. Dernière question, Rachel Amalric. Derrière vous, il y a un papier avec des gommettes de toutes les couleurs, avec des chiffres aussi. C'est quoi? C'est une œuvre d'art?
Presque. C'est l'œuvre d'art des spécialistes de la signalétique et des spécialistes du graphisme qui ont travaillé pour justement préparer la charte graphique et la signalétique dans le musée. Pourquoi elle est derrière moi? Parce que, tout d'abord, c'est une très belle palette qui a été puisée dans celle d'Henri Martin. Ensuite, parce que ces petits points représentent les collections et l'effervescence des collections. Enfin, parce que ça me permet de travailler au plus près de ce qui a été choisi pour le graphisme et pour la signalétique lorsque j'ai besoin de réfléchir sur des documents. Donc, je le garde sous les yeux. C'est un petit mémo. Mais en plus, eh bien, il a un côté fun parce qu'il met de la couleur autour de moi, autant que nous espérons que ces collections mettent de la couleur dans le cœur de nos habitants.
Oui, parce que je suis déçu, là, pour le dire. Le bureau d'une directrice de musée, c'est quand même bien blanc. Hein. Je vois rien, il n'y a pas de tableau, etc. C'est décevant, mais je pense que vous allez corriger tout ça. Il faut trouver les œuvres, les tableaux qui vous plaisent.
Pour le public,
les œuvres. Pour le public, les œuvres, bah oui. Donc, du coup, vous, j'imagine, ça va être un petit peu...
Nous, on a le droit au poster. Mais on n'a pas eu le temps de s'en occuper.
C'est vrai, il y a des choses plus urgentes, comme la réouverture du musée. Le 6 mai prochain, 3 jours de fête. Venez en plus profiter, s'il fait beau, du jardin qui est à côté, parce que vraiment, le parc Tassard, qui est comment?
Je voudrais dire aux gens qu'ils peuvent prendre leur pique-nique.
Ah ouais,
il y aura une tente sous la cour s'il fait pas beau, mais c'est prévu qu'il fasse super beau. Et ils pourront prendre leur pique-nique et manger ici. Ça va être super chouette.
Sylvie ?
Voilà, et il faut savoir que ce parc, vous allez le voir aussi, vous allez le redécouvrir, il est absolument magnifique, mais s'il vous plaît, faites bien attention aux plates-bandes et au gazon, qui est tout petit, tout neuf, et il ne faut absolument pas marcher dessus. Merci.
Rendez-vous donc au 6 mai pour la réouverture du musée. Merci Sylvie Caroff de m'avoir accueilli. Merci Rachel Amalric de m'avoir accueilli. Tout le programme, vous le trouverez sur le site kaoraglo.fr et puis aussi dans votre boîte aux lettres, apparemment. C'est la fin de ce magazine. Vous pourrez le réécouter tout à l'heure à 17h en rediff et à 21h30 et en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.